Voilà, j'aimerais aborder ce soir cet événement qui vient de se conclure d'ailleurs aujourd'hui, le synode des évêques sur la famille. On a entendu beaucoup de choses dans les médias, beaucoup de prises de position, de guéguerre et de lutte. Tout ça faisait partie un petit peu de l'exercice. Je crois que beaucoup de médias ont projeté sur le synode tous leurs désirs, toutes leurs aspirations, toutes leurs volontés, mais c'est pas nécessairement ce qui a été dit au cours du synode. Le pape avait demandé ce synode lors du consistoire extraordinaire des cardinaux qu'il avait réuni à Rome l'année passée. D'ailleurs, la décision a été prise de manière très rapide pour ce synode, pour différentes raisons. Une raison positive, c'est qu'il y a une bonne nouvelle de la famille, il y a un évangile de la famille à annoncer. Et puis, pour une raison négative, c'est que le drame autour de la famille est immense aujourd'hui. La souffrance des familles déchirées, la souffrance des familles, enfin, du mariage homosexuel, enfin, toutes ces souffrances que l'on voit un peu partout et qui font que finalement, la réalité même de la famille, avec, si on rajoute là-dessus, la procréation médicalement assistée, les mères porteuses et tout ça, on va arriver à avoir un enfant qui a deux personnes qui s'occupent de cet enfant, qui n'est ni son père ni sa mère génétique, si j'ose dire. Donc on arrive à des réalités qui sont, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, complètement inimaginables. Et j'en parlerai tout à l'heure de ça. Il y a véritablement un défi immense autour de la famille qui nous est posé devant nous aujourd'hui et on ne peut pas le laisser aller. Alors, le pape avait dit justement qu'il faut entendre le cri des peuples, le cri du monde, le cri des souffrances, et qu'il y a dans l'Évangile une force et une tendresse capables de vaincre les malheurs et la violence. Oui, dans l'Évangile, il y a une sagesse qui comble les besoins de l'homme les plus profonds. Et il proposait donc d'avoir le regard fixé sur le Christ, en prenant pour guide les paroles de la Vierge Marie, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et puis quand il a ouvert le synode, il a demandé aux évêques d'abord de redécouvrir et de faire redécouvrir au monde la voie qu'est l'évangile de la famille, donc la bonne nouvelle de la famille, l'enseignement sur la famille, et puis en même temps l'audace de parler avec beaucoup de liberté. Il faut écouter avec humilité, accueillir d'un cœur ouvert ce que disent nos frères. C'est par ces attitudes que l'on exerce la synodalité. Parlez clairement, dit-il, n'ayez pas peur, la parésia, parlez avec audace. Et donc, parlez avec audace et écoutez avec humilité, leur disant, et faites-le tranquillement et dans la paix, parce que le synode se déroule toujours cum petro et sub petro, avec Pierre et sous Pierre, et la présence du pape est une garantie pour tous qui gardent la foi. Voilà, donc il y avait une annonce comme ça. Alors, c'est vrai qu'on a entendu certains cardinaux, Casper, Müller, Bourg, se tirer un petit peu dans les pattes les uns les autres, on entendait ces choses-là. Vous savez, si on prend le concile de Nicée en 431 et le deuxième, les évêques arrivaient avec des soldats armés de bâtons et de gourdins pour se taper sur la figure. Donc finalement le débat était moins dans l'assise du concile qu'en dehors avec les gourdins qui étaient là et les gens cédaient en fonction des trucs. Ce qu'on appelait le concile d'Éphèse, le brigandage d'Éphèse était d'une violence inimaginable. Donc les gens arrivaient avec bâtons et trucs. Il faut relire, je relisais les lettres de saint Augustin et de saint Jérôme. Quand vous entendez ce que saint Jérôme envoie à saint Augustin, je voulais vous lire une lettre ce soir, mais j'ai juste oublié à côté, donc vous n'aurez pas la joie d'entendre ces propos de saint Jérôme contre saint Augustin. Je peux vous dire que c'était pas piqué des vers. Donc on s'envoyait des choses en pleine figure. Donc j'entends, voilà, il y a une certaine liberté de parole et une certaine franchise qui est là. On peut améliorer la charité, on peut améliorer aussi la façon de le dire, mais enfin, l'histoire de l'Église est faite de ces difficultés, de ces débats. Les grands débats christologiques du début du christianisme étaient d'une tension extrême, vraiment extrême. D'ailleurs, plusieurs évêques sont morts martyrs à cause de ça, persécutés non pas tant par le pouvoir politique, mais par leurs frères évêques, mis en exil, on pense à saint Athanase, contre l'arianisme. Enfin, voilà, donc l'histoire de l'Église est faite de ces aventures un peu tendues. Et donc, ça appartient aux vicissitudes, sachant bien que l'Esprit Saint s'en sort, et ça c'est assez extraordinaire de voir comment l'Esprit Saint s'en sort de toutes ces difficultés, de toutes ces tensions. Donc je pense qu'il n'y a à la fois aucune inquiétude à avoir, l'histoire de l'Église est faite de ça, et les premiers conciles sont faits de ça, et j'allais dire que c'était même bien. Vous savez, quand Nestorius va annoncer à Constantinople, à Sainte-Sophie, que Marie n'est pas mère de Dieu, mais qu'elle est mère du Christ, voulant par là nier la divinité du Christ en disant qu'elle est mère que de l'humanité.